Europe 1.
La rumeur, elle intrigue, elle interroge, elle inquiète ou elle fascine. Elle est souvent transmise de bouche à oreille et lorsqu'elle est lancée, il est très très difficile de l'arrêter. Pourtant, la rumeur peut toucher chacun d'entre nous et détruire une vie. La rumeur prend source après un mensonge, une vengeance ou encore une erreur et malgré l'intervention de la justice, elle continue parfois encore à courir. Pour y échapper, certaines personnes n'ont alors d'autre choix que de quitter leur terre natale. Comment faire face lorsqu'on est victime de fausses accusations? Comment affronter le regard des autres? Et comment prouver son innocence et rétablir la vérité? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Youssef. Victime d'erreurs judiciaires, il a passé plusieurs années en prison avant d'être innocenté. Malgré cette reconnaissance de la justice, les rumeurs n'ont cessé de le poursuivre. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, alors soyez les bienvenus. Youssef, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va super, et vous?
Merci, oui, ça va très bien.
Ça
merci
va
de m'accorder de votre temps.
Bah, je vous en prie.
Pendant ces quelques jours où nous allons parcourir, revoir une partie de votre vie, vous avez été accusé d'avoir commis un hold-up en 2004 dans un supermarché, une nuit d'octobre, de fin octobre 2004. Lorsqu'on est innocent, Youssef, et que l'on entend un juge prononcer la peine de 10 ans d'emprisonnement, qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là?
Bah, c'est une espèce de foudre en fait qui s'abat sur nous. Puis on comprend pas, on n'arrive pas à y croire quoi. Enfin, j'ai eu du mal moi à réaliser sur le coup que je venais d'être condamné à une peine en plus aussi importante. Et je me suis senti complètement déconnecté quoi en fait.
Vous avez été innocenté de manière totalement incontestable. Et malgré le fait d'avoir été innocenté, la rumeur a continué à résonner lorsque vous avez été de retour dans votre ville de Nantes, hein, dans votre quartier.
Moi, pour ma part, j'étais innocenté à la demande même de la justice. C'est-à-dire que la justice elle-même a reconnu l'erreur qui a été commise. Et malgré ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre. Qui se disent « Non, mais si on le renvoie quand même devant une cour d'assises, c'est qu'il y a quand même des éléments. Cette histoire, elle n'est pas très claire. » Si on a été condamné quand même par un jury populaire à la majorité, c'est forcément qu'il y avait des éléments, c'est forcément que ce garçon il y était pour quelque chose, même peut-être indirectement. Je le prenais mal au départ, mais après j'étais dans cette vision des choses où je me suis dit mais j'ai plus rien à prouver, je suis plus devant une cour d'assises, je suis plus devant un juge d'instruction, j'ai plus rien à prouver. Ce que j'avais à prouver, je l'ai prouvé dans la cour d'assises. J'ai été blanchi, donc maintenant je cherche plus trop à rentrer en conflit ou en discussion avec des personnes parce que c'est essayer de prouver. Mmh. Alors que moi je suis plus du tout dans cette volonté d'essayer de prouver. J'ai beau avoir subi des critiques ou des personnes qui m'ont fait tout un tas de commentaires, mais ce qui m'a atteint véritablement c'est la condamnation.
On va parler de tout ça et puis bien évidemment parler de cette rumeur qui ensuite vous a collé à la peau et que vous avez su combattre. Allez, on y va, venez.
Youssef vient de Malakoff, un quartier sensible de Nantes dans lequel il a grandi entouré de ses parents et de ses quatre frères et sœurs. À 20 ans, il a pour projet de créer sa propre marque de vêtements et quitte la cité pour se rapprocher du centre-ville. C'est là que le 4 avril 2005, la police débarque chez lui au petit matin.
J'entendais des bruits de tapage qui persistaient, donc je me suis levé pour aller à la porte d'entrée de mon domicile et j'ai vu la porte s'effondrer, tomber devant moi et des policiers cagoulés qui sont rentrés à plusieurs, qui m'ont braqué avec des armes en me demandant de me mettre à genoux au sol, les mains sur la tête.
Qu'est-ce qui vous passe dans la tête à ce moment-là?
J'ai pris peur parce que j'ai vu l'image de la porte déjà tomber, donc c'était quand même impressionnant de voir la porte de chez soi comme ça tomber et puis de voir des mecs cagoulés courir dans mon salon et me dire « mets-toi à genoux, les mains sur la tête ». Donc forcément, ça m'a Enfin, je me suis exécuté sur place, quoi. Sur le coup, on ne cherche pas à essayer de comprendre,
sûr,
quoi.
On
obéit déjà à ce qu'on nous demande de faire. Mm-hmm. Et c'est plus après, quand on m'a mis les menottes et que je me suis relevé, et que quand on commence à m'informer du motif de mon placement en garde à vue, c'est là que je commence à essayer de poser des questions.
Et est-ce que les policiers vous répondent à ce moment-là ?
Il y a juste des officiers de la police judiciaire qui m'ont dit, qui m'ont notifié ma mise en garde à vue,
ouais,
à compter de 6 heures du matin, pour des faits de vol à main armée et de séquestration. Je tombe des nues, je comprends pas, je me dis, attendez, vous êtes sérieux ? Quel vol à main armée ? De quoi vous me parlez ? J'ai strictement rien à voir dans ces histoires. Parce que j'avais la conscience tranquille. Je sais que j'avais rien fait. Et on me dit, écoute, tu poses pas de questions. C'est pas toi qui poses des questions ici. Tu verras ça au commissariat.
Vous arrivez donc au commissariat de police.
Ouais.
Est-ce que vous êtes interrogé sur le champ ?
On m'a dit, voilà, on vous reproche d'avoir participé à un braquage. Le braquage du Super U de Saint-Jacques à Nantes. Et donc voilà, on m'a dit, on va vous poser des questions et vous allez nous répondre. Et il va falloir la jouer vraiment franco, quoi. Il va falloir pas nous prendre pour des cons parce qu'on ne vient jamais chercher quelqu'un comme ça par hasard. On ne vient pas chercher les gens comme ça sans éléments.
Ce braquage, il était particulièrement violent puisque je crois que les malfaiteurs sont plusieurs,
oui,
arrivent dans la nuit et prennent au fur et à mesure en otage les employés. Hein.
Oui, c'est ça. On parle d'un vrai braquage qui est vraiment sérieux ou qui a vraiment eu des victimes qui ont été terrorisées,
oui,
qui ont été vraiment choquées et que voilà, qu'il y a eu des armes de retrouver, notamment dans une planque, dans un appartement. Et donc on m'a dit, voilà, on va vous présenter certains CD, certains objets, et vous allez nous dire ce que vous reconnaissez et ce que vous ne reconnaissez pas.
On vous présente quoi comme scellé et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors, on m'a présenté des armes, on m'a présenté des cagoules et on m'a présenté un masque. Quand j'ai vu ce masque-là, bah, j'ai reconnu tout de suite en être le propriétaire. Je leur ai dit, mais voilà, je reconnais ce masque-là, c'est le mien. Ils m'ont dit, mais t'es sûr que c'est le tien ? Je dis, oui, je reconnais, c'est mon masque. Donc, ils ont attendu que je signe mon procès-verbal. Et dès que j'ai signé mon procès-verbal, là, ils m'ont dit, bah, tu vas en prendre pour 20 ans parce que le masque dont tu as reconnu être le propriétaire, il a été reconnu dans le cadre du vol à main armée. Et toutes les victimes sont formelles, c'est bien ce masque-là qui a été utilisé. Et moi, je leur dis tout de suite, mais écoutez, je ne suis pas stupide pour dire que le masque qui m'appartient si je sais que j'ai fait un braquage avec, sachant que ce masque-là, vous ne l'avez pas retrouvé chez moi. Et c'est là que j'apprends que mon accusateur, qu'il y a une personne qui m'a mis en cause, et que mon accusateur avait dit que c'était moi qui avais déposé le masque chez lui à son insu.
Ouais, je te préviens. Ouais.
Ce masque dont parle Youssef et qui est à l'origine de tous ses ennuis est un classique tiré du film Scream. Un masque souvent utilisé lors de soirées déguisées ou à l'occasion d'Halloween. En le prêtant à l'un de ses amis, Youssef ne s'attendait pas à de telles conséquences.
Vous, là, lorsque vous êtes en garde à vue, vous êtes accusé par l'un des auteurs de ce braquage, d'avoir commis ce braquage. Donc du coup, ils ont des certitudes, ces policiers,
oui,
quand ils vous
interrogent. Parce que comme il était sur le lieu des faits et,
oui,
qu'il reconnaît sa participation, forcément, il lui accorde du crédit.
Exactement. En garde à vue, donc, vous adoptez quoi comme attitude ?
Eh bien, l'attitude d'une personne innocente qui clame son innocence, qui ne comprend pas pourquoi il est là, et et quand on me pose à chaque fois des questions sur les faits qui me sont reprochés, je suis simplement en train de leur dire qu'ils sont en train de perdre leur temps. Vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que je n'y suis absolument pour rien.
Alors, vous êtes déféré au parquet au bout de 48 heures.
Voilà.
Vous passez devant le juge des libertés.
Juge d'instruction.
Juge d'instruction d'abord.
D'abord.
Oui.
Voilà.
Qui vous dit quoi ?
Alors, le juge d'instruction me dit, quand je rentre dans son bureau, il y a une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, monsieur Zouini, vous êtes monté dans le train, je vais vous amener au terminus. Vous êtes mis en examen, à compter d'aujourd'hui, pour vol à main armée et séquestration. Et je vais demander au JLD, au juge des libertés de la détention, votre placement en détention provisoire. Parce qu'en fait, au commissariat, je ne pensais pas que ça allait prendre des proportions aussi énormes. Parce que comme je suis innocent, je me suis dit non. Au bout d'un moment, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de faire une boulette, ils vont s'apercevoir qu'il y a une erreur. Sauf que quand j'arrive carrément dans le cabinet d'instruction et que je suis déféré au parquet et que je me retrouve devant un juge qui me met en examen, là, je suis en train de me dire, là, ça va loin. Et ensuite, je ressors du bureau du juge d'instruction et je suis convoqué quelques minutes plus tard dans le bureau du juge des libertés pour savoir, et de la détention, pour voir si on va me mettre en détention. Et là, quand on me met en détention, c'est un choc total. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, quoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? J'étais dans mon lit, au téléphone, avec ma petite amie. On est venu casser ma porte. Aujourd'hui, je suis en prison pour un truc que j'ai pas fait. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dingue ? Comment j'ai pu me retrouver dans cette histoire ?
Dans l'attente de son jugement, Youssef alterne les séjours en prison et les contrôles judiciaires. 2 ans après son arrestation, le 11 juin 2007, son procès s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Nantes. Le jeune homme est défendu par un avocat commis d'office qui ne parvient pas à prouver son innocence. Youssef est condamné à 10 ans de réclusion criminelle.
J'ai été complètement sonné. Par le verdict, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, ils m'ont mis 10 ans et ça s'arrête là.
Je voudrais venir sur un geste que vous avez eu le 16 juin 2007.
Oui.
Qui est un geste qui aurait pu vous coûter la vie. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était un appel au secours ? Est-ce que c'était
oui, c'était un appel au secours parce que je n'avais pas été entendu. J'ai été condamné alors que j'étais innocent. Et ça, je ne l'ai pas accepté. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un de suicidaire. Mais là, j'avais besoin d'une écoute. J'avais besoin qu'on essaie de se pencher véritablement sur ma cause. Alors, je pensais à une grève de la faim. Je pensais à plusieurs choses. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'interpelle. Il faut vraiment
que je marque les esprits,
qu'on comprenne que je suis vraiment en train de vivre un cauchemar. Les gens savaient que j'étais en prison injustement, jusqu'au gardien de la maison d'arrêt. Les surveillants de prison savaient que j'étais innocent. Il y a un surveillant de prison qui est venu me voir et qui m'a dit « Tu sais quoi, Zouni, je sais que t'es innocent. » Parce que celui qui a commis le braquage, il est incarcéré, il m'a dit que c'était lui qui était coupable, c'était toi qui étais innocent. Et c'était la personne qui a été acquittée au premier procès.
Résultat, finalement, ce geste, il n'a servi à rien.
Ce geste, il n'a servi à rien parce que j'ai pas été plus écouté que ça et que c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'étais complètement délaissé.
Si sa tentative de suicide ne provoque aucune réaction, Youssef peut en revanche compter sur son nouvel avocat. En exploitant les relevés téléphoniques délaissés lors du premier procès, celui-ci arrive à prouver que le jeune homme était tout simplement chez lui le soir du braquage. Youssef est acquitté, libéré et indemnisé par la justice à hauteur de 90 000 euros. Au total, il aura quand même passé 4 ans en prison, 4 ans qui auront fait de lui un éternel suspect.
Comment est-ce que vous sentez que la rumeur, elle est sur vous, qu'il y a quelque chose qui persiste sur votre culpabilité, même si vous avez été innocenté par une cour d'assises?
On se dit que j'ai pas pu me retrouver véritablement au milieu de tout ça si j'étais complètement innocent, qu'il devait bien avoir quelque chose, que je devais bien être associé, même de loin, mais qu'il devait y avoir un lien forcément entre moi et cette histoire. On m'a dit sur le ton de la rigolade.
Bien joué.
Ouais, Youssef, tu peux. Ouais, à vous, c'était toi. Tu peux me le dire entre nous. Entre nous, je ne le dirai pas.
Ouais. Et quelle était votre réaction alors?
Parce que on n'a pas envie de rigoler avec des sujets comme parce que ça ne fait pas rigoler. Parce que les gens, ils ne savent pas par quoi vous êtes passé. Et s'ils avaient vu de leurs yeux l'enfer que j'avais vécu, à ce moment-là, ils rigoleraient même pas. Ils n'en parleraient même pas. Mais parce que les gens n'ont pas conscience. Parce que c'est une injustice, il faut vraiment vivre pour la comprendre.
Est-ce que l'argent, finalement, l'indemnisation, elle n'entretient pas aussi la rumeur? Elle ne déclenche pas une certaine jalousie?
Forcément, quand Il s'agit d'argent. On devient quelque part un peu suspect. On ouais. devient un peu une espèce de cible.
Est-ce que ça vous blessait, Youssef ? Est-ce que...
Bah oui, ça me blessait parce que je me... Pour moi, c'était pas quand on me disait voilà, mais vois le bon côté des choses, tu vas toucher de l'argent. Mais il y a des choses qui ne s'achètent pas. Bien la sûr. Souffrance d'une mère, ça ne s'achète pas. Une jeunesse, 4 ans d'une jeunesse enlevée, ça ne se rattrapera pas, même avec tous les millions du monde. Et qu'il y avait une partie de ma jeunesse que j'avais besoin de vivre.
Votre mère, vos oui. frères, alors votre sœur est à Lyon, c'est. Voilà, elle est un peu protégée de tout ça, mais est-ce qu'ils ont été blessés par justement les bruits colportés par certains sur vous ?
Oui, bien sûr. Voilà quoi, qu'on puisse dire ça de moi, ils étaient très, voilà, ils étaient très tristes par rapport à moi parce qu'ils savaient que j'étais innocent, donc ils n'acceptaient pas qu'on parle mal de leur petit frère. J'étais déçu que certaines personnes puissent rester sur leur position. Me concernant, alors que je viens de prouver le contraire. Et je viens de prouver le contraire à la justice. C'est beaucoup plus difficile de prouver à la justice que de prouver à des gens dans la rue.
Ou à l'opinion, ouais.
Voilà. J'ai été innocenté. Ça a été, je pense, assez relayé par les médias. J'ai sorti un bouquin. J'en ai ressorti un deuxième. Et les gens, malgré tout ça, trouvent encore l'opportunité de parler et trouvent encore le doute encore qui vient les perturber dans leur tête en se disant non mais il y a quelque chose. C'était blessant parce que là c'est ma liberté qui a été en jeu. C'est ma liberté qui en a pris un coup. C'est mon nom de famille, c'est ma famille qui a souffert. Donc voilà, quand on met une personne en prison, c'est toute sa famille aussi qui souffre.
Décidé à tourner la page, Youssef entame sa reconstruction. En prison, il a découvert le théâtre, un univers qu'il voit aussi comme la possibilité d'une nouvelle vie. Il s'installe à Paris et il intègre le Cours Florent, une école de théâtre et de cinéma. Mais même ici, loin de son quartier nantais, son passé le poursuit.
Bon, au Cours Florent, ça s'est su.
Oui.
Ça s'est appris.
Ça ne pouvait pas être autrement,
Youssef. Oui, ça c'est sûr. Donc, bon, c'est pas des gens de quartier qui sont là-bas.
Non.
C'est des gens qui sont très ouverts, c'est des gens qui sont très cool, c'est des gens qui sont pas du tout de ma classe sociale, qui sont pas du tout de. On n'a pas du tout les mêmes mentalités. Et du coup, quand on se retrouve avec ces gens-là, bon, ils se disent bon, si finalement un gars comme Youssef, un mec de quartier, maghrébin, tout ça, se retrouve au Cours Florent, c'est que lui, il est pas comme les autres. Mm-hmm. Et puis quand on se dit « Ah, quand même, il a fait de la prison. » Ah, tu vois,
il n'y a pas
de fumée sans feu, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il est quand même passé en prison. Il a fait de la prison. Donc, s'il a fait de la prison, il y a quelque chose. Ça m'a beaucoup usé, moi, de l'intérieur.
Bien sûr.
Parce que ça m'a demandé beaucoup de force, ça m'a demandé beaucoup d'énergie.
Vous êtes comme une cocotte minute, j'ai l'impression.
Ouais. J'étais tout le temps, en fait, sur la défensive, quoi. Mmh. Alors, je décide de mettre en suspens ma vie en France.
Vous décidez de partir au Maroc. Au Maroc, vous soufflez.
Moi, le temps où je suis resté au Maroc, c'est le temps où aussi j'ai fait un énorme travail sur moi.
Ouais.
Où je me suis aussi... Je me sens vivre, en fait. Je suis noyé dans la masse. Personne ne fait attention à moi. On ne vous regarde pas. Je me sentais respirer, je me sentais vraiment revivre. C'était pour moi une thérapie.
Quel homme êtes-vous devenu aujourd'hui, en ayant traversé toutes ces épreuves ?
Un homme qui a confiance en lui, et qui sait où il va, et qui sait ce qu'il veut.
Alors aujourd'hui, vous êtes acteur, vous êtes scénariste.
Oui.
Votre projet est toujours de décrocher la lune, parce que vous êtes conscient d'avoir choisi un métier difficile.
Oui, un métier difficile, mais c'est pour moi... ce sera jamais plus difficile que l'expérience que j'ai vécue. Je sais que je me dirige vers un métier de lumière, donc forcément, je ne serais même pas étonné qu'on puisse reparler de cette histoire si demain je venais à faire une grande carrière dans le milieu artistique. Je ne serais pas étonné que cette histoire revienne sur le feu en oui. disant « Ouais, mais voilà, de tout est parti de sa condamnation en prison. Et c'est en prison qu'il a découvert le milieu artistique. Et que finalement, quand il est sorti de tôle, il est parti au cours Florent. »
Oui, mais auquel cas, ça remontera là pour de bonnes raisons.
Mais pour de bonnes raisons.
Quels sont vos projets aujourd'hui, Youssef ?
Parvenir à me faire une place dans le paysage cinématographique français. Donc voilà, j'attends le fameux casting qui j'espère, me révélera et je pourrai enfin lancer ma carrière et je pourrai vraiment continuer à jouer parce que c'est tout ce dont j'ai envie.
C'est tout ce que je vous souhaite.
Merci beaucoup.
Mille merci à vous.
Merci à
et
vous.
Et plus courage.
Merci beaucoup.
Salut Youssef.
Salut.
Pour clamer son innocence, Youssef a donc décidé de médiatiser son histoire à travers ses livres ou en participant à des émissions. Une démarche qui a pour effet de rétablir la vérité, mais qui contribue aussi à entretenir une image et une réputation imméritées. Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.